Bon matin, Nouvelle-Ville-la-Prairie, ça va bien? Ouais? C'est bon d'être là, hein? Yes, je suis content d'être avec vous ce matin. Merci pour l'invitation, Pasteur Ben et Sophie, merci pour la confiance. Je connais ces deux personnes-là depuis très longtemps, j'ai travaillé avec eux et on travaille toujours ensemble. Et je vous assure qu'ils travaillent fort, ils font un travail incroyable. Et est-ce que ce matin, on pourrait leur donner l'appréciation et l'encouragement qu'ils méritent Yes, je crois que ce matin, Dieu veut vous bénir. En fait, il va vous bénir, et je le sais parce que j'ai vécu une attaque spirituelle cette nuit. Ça n'arrive jamais, mais à 1h30 du matin, le détecteur de fumée incendie est parti. Et à 1h30, quand tu essaies d'arrêter le détecteur incendie, c'est compliqué. Fait que je crois vraiment qu'il y a une attaque spirituelle parce que Dieu sait, et Satan sait que Dieu va bénir ce matin. Amen. Et ce matin, je veux vous bénir vraiment. Et ce matin, on va parler de bénédiction. C'est bon de venir à l'église pour être béni? Vous l'êtes? Moi aussi. On va parler de bénédiction, mais pas de n'importe quelle bénédiction. Ce matin, je vais vous parler de la plus grande des bénédictions. Rien que ça, justement, Dala, vous allez découvrir quelle est la plus grande bénédiction ever. Okay? Je ne sais pas quelle serait pour vous la plus grande des bénédictions. Pour certains, ça serait avoir... trouver un conjoint, une conjointe, d'autres avoir un enfant, d'autres c'est la santé, d'autres c'est, je ne sais pas, avoir une nouvelle voiture, etc. Moi, ma femme, ça serait d'avoir un deuxième chat, ça serait sa plus grande bénédiction en ce moment. Elle pousse, mais je retiens encore la bénédiction. D'autres c'est la santé, puis quand la santé va, tout va. Certains s'imaginent recevoir un don d'argent. Alléluia. Il y en a qui sont allés se faire vacciner juste pour participer au concours et essayer de gagner le million de dollars. Certains imaginent recevoir même un héritage. Et peut-être la plupart d'entre vous, comme moi, vous avez reçu un courriel d'un prince africain qui avait... Est-ce que je suis le seul à l'avoir reçu? Ok, un prince africain qui a vraiment beaucoup d'argent et qui ne connaît personne, malheureusement, à part vous, apparemment, et qui vous fait absolument confiance pour gérer tout cet argent et pouvoir le donner autour de vous. Et vous êtes la seule personne vraiment qui peut faire ça. Mais bien sûr, tout le monde sait que c'est une escroquerie, ok? C'est faux. C'est juste pour avoir votre argent à vous. Et en parlant d'escrocs, je ne sais pas si vous regardez des séries Netflix des fois ou pas. Peut-être vous êtes plus spirituel que moi, puis vous êtes toujours en la présence de Dieu, puis... J'apprécie, j'apprends de vous. Mais moi, j'ai écouté une série Netflix dernièrement, et c'est la série Lupin. Je ne sais pas si vous avez vu avec Omar Sy, tout ça. Et c'est une série avec un escroc. Pourquoi les pasteurs regardent des séries d'escrocs? C'est juste pour savoir comment pas faire, surtout. On veut juste éviter les pièges, tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Priez pour moi, pour ma sanctification, si jamais. Mais il y a un slogan. Il y a un slogan à cette émission, c'est « Vous voyez, mais vous ne regardez pas. Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. » Et ils ont fait toute une campagne là-dessus où Omar Sy était dans le métro parisien, puis il collait des affiches de la série Lupin, et les gens ne le reconnaissaient pas. Ils voyaient qu'il mettait l'affiche, ils voyaient qu'il était en train de coller tout ça, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas que c'était lui, et en fait, ils le voyaient, mais ils ne le regardaient pas. Et j'aimerais vous parler d'un passage ce matin, mais avant de vous parler de ça, j'aimerais savoir si vous êtes observateur. J'aimerais savoir si vous avez l'œil. Et on va faire un test. On va faire un test d'observation ce matin. J'ai une vidéo pour vous. C'est en anglais, mais je vais vous la traduire because I'm very fluent in English, you know. Je vais vous la traduire, puis on va voir si vous êtes bon, si on peut lancer la vidéo.
This is an awareness
test d'observation.
How many passes does the team
Combien de passes l'équipe en blanc va-t-elle se faire?
The answer is 13.
La réponse est 13. Eh, y en a, ils sont francs.
But did you see the moonwalking?
Est-ce que vous avez vu l'ours qui faisait du moonwalk en arrière?
Go!
C'est facile de manquer quelque chose quand on ne le regarde pas. Faites attention aux cyclistes. Vous voyez, mais vous ne regardez pas. Et ce matin, je veux parler d'un passage que j'ai lu peut-être des dizaines de fois, que j'ai même entendu prêcher très, très souvent, et vous aussi, où je voyais, mais je ne regardais pas. Ce passage parle d'une histoire d'héritage. C'est le passage du fils prodigue. Et j'ose croire que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce passage-là, sous cet angle-là. Et j'espère, et je crois, et je sais que Dieu va vous parler ce matin. Amen. Yes. Le passage, c'est l'histoire du fils prodigue qui se trouve dans Luc 15. Et on va lire ensemble toute cette histoire. On est dans la maison de Dieu et on va lire la parole de Dieu. Jésus donc dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa, l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné de chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Première chose qu'on apprend, c'est que les barbecues, c'est de Dieu, ok? Il y a un barbecue, c'est pour ça qu'on fait des barbecues avec nos ados, c'est super bon. Mais blague à part, j'ai une question pour vous. Et là, il y en a plein qui se disent « Ah, oh, je la connais, de quel fils va-t-il parler ce matin ?» Mais d'après vous, qui a saisi le véritable héritage du père ? Qui s'est emparé du véritable héritage que le père avait pour ses fils ? Qui pense que c'est le plus jeune frère ? Qui pense que c'est le grand frère ? Qui ne sait pas ? Qui pense que c'est un piège ? D'accord, ok. En fait, la réponse, c'est aucun. Aucun. Les deux fils sont passés à côté de la plus grosse part de l'héritage. Pourquoi ? Parce que l'héritage n'a pas été réclamé. De quoi tu parles, Stéphane ? Je ne comprends pas. Si, si, le petit, il l'a demandé. Non, les deux sont passés à côté. Et voici ce qu'un héritage non réclamé. Très souvent, il y a deux scénarios à ça. Le premier scénario, c'est qu'il est refusé. On refuse un héritage. C'est souvent refusé parce qu'il y a des dettes, etc. Mais on refuse. La deuxième raison, le deuxième scénario, c'est qu'il n'a pas été connu. Puis très souvent, on peut embaucher des gens pour découvrir qui sont les héritiers. Mais un héritage non réclamé, c'est soit parce qu'il est refusé ou soit parce qu'il n'est pas connu. Et voici l'héritage en question qui se trouve au chapitre 15 et au verset 31 de Luc. Il dit « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Dans ce passage, il y a deux héritages. Il y en a un qui est principal et il y en a un autre qui est secondaire. Les deux sont passés à côté de l'héritage principal. En fait, quand on lit, c'est « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » S'il y a un « et », ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Et ce qu'il y a avant, c'est « Tu es toujours avec moi. » Il y a une autre traduction qui dit « Je suis constamment avec toi. » En gros, la plus grosse part de l'héritage principal, c'est la présence de Dieu. C'est la présence du Père. Et l'héritage secondaire, c'est les bénédictions qui viennent avec. Vous voyez, mais vous ne regardez pas. Un l'a refusé. Le jeune frère, en prenant son héritage, qui a considéré son père comme mort, littéralement, à l'époque, quand on faisait ça, c'est de dire, je te considère comme mort, donc je prends mon héritage qui m'est dû. Et l'autre ne l'a pas connu. L'autre ne l'a pas compris et a pris la présence du Père pour acquis. Il ne réalisait pas qu'il vivait déjà dans l'héritage que son père avait pour lui. Et souvent, en tant que chrétien, ce qui arrive, le défi, c'est qu'on peut prendre pour acquis la présence de Dieu. On vient à l'église, il y a la louange, tout ça. « Oh, j'aime pas trop ce chant. » Non, on prend pour acquis la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme le grand frère. On se compare avec les autres. « Oh, Seigneur, pourquoi tu bénis lui ? Pourquoi ? Oh, mais moi, il me semble que je suis droit, moi, je suis tes commandements, etc. Puis lui est béni, puis moi, c'est quoi ma bénédiction à moi ? Qu'est-ce que j'ai ? » On se compare à d'autres. On voit ce qu'on n'a pas, au lieu de regarder à ce qu'on a. Et on se plaint à Dieu. Les chrétiens, on est bons pour se plaindre, c'est incroyable. Et on passe à côté de la bénédiction, la plus grande des bénédictions, la présence de Dieu. Le Père dit, tu es toujours avec moi. Et c'est bizarre, c'est incompréhensible. Pourquoi de dire, tu es toujours avec moi ? Si vous demandez à un ado, qu'un père dit à son ado, mais de quoi tu te plains ? Je suis avec toi. Ben, c'est bien ça le problème. J'aimerais que tu sois un peu moins avec moi. Ok ? Et pourtant, il dit, tu es toujours avec moi, je suis constamment avec toi. Ça, c'est la plus grande des bénédictions, littéralement. Et ça peut paraître bizarre. Et pourtant, c'est ça la vraie bénédiction que Dieu a pour chacun d'entre nous. En fait, Dieu est présent depuis le début. Dieu est présent depuis la création. La Bible nous dit que, alors que la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La présence de Dieu était là aussi dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'était là où le ciel et la terre étaient réunis. Et la présence de Dieu était pleine, entière et totale. Mais alors que Adam et Ève ont péché contre Dieu, ils ont dû se retirer de la présence de Dieu. Ils ont péché et ils sont passés aussi à côté de cette bénédiction qui était là. Peut-être l'ont-ils prise pour acquis aussi. On sait ce qui s'est passé. Il était présent dans la nuée quand Dieu dirigeait le peuple. Il était présent aussi dans l'Arche de l'Alliance, pour aller au-devant du peuple d'Israël et remporter des victoires. Il était aussi dans le temple que Salomon a bâti. La présence de Dieu a toujours été là. Dieu a toujours voulu être avec nous, dans la présence de Dieu, tout le temps. Tout le temps, il a été là, du début jusqu'à la fin, jusqu'à être incarné en Jésus. Jésus est venu du ciel sur la terre pour apporter sa présence. Et ce qui est intéressant, c'est que le deuxième prénom de Jésus, c'est Emmanuel, qui veut dire « Dieu avec nous ». En fait, la bénédiction est nommée dans son nom, Dieu avec nous. Ce n'est pas Emmanuel, Dieu nous bénit, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais en attendant, nous avons accès à sa présence. Elle est là, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes sûr que si vous prenez du temps à la présence de Dieu, vous ne tomberez pas sur « Votre appel est important pour nous, nous vous demandons de garder. » Vous la connaissez ? Il n'y a pas ça avec Dieu. Dieu est disponible en tout temps. Il est là, 24 heures sur 24. Et peut-être des fois, on prend pour acquis cette présence. Mais on y a accès encore aujourd'hui. Et si tu ne vas pas bien ce matin, va dans sa présence. Si tout va bien pour toi, va dans sa présence. Si tu ne sais pas comment tu files, va dans sa présence. Va dans sa présence. Sa présence est là. Dans sa présence, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous parler. Dieu veut apaiser nos douleurs. Dieu veut aussi nous guérir, nous faire du bien. Dieu veut nous reprendre et nous corriger. Ça, c'est bon, ça. Mais il veut aussi nous restaurer, il veut nous donner sa paix, il veut nous donner sa joie, il veut déverser son amour en nous. Tout ça se trouve dans sa présence, et bien plus. Tous ceux qui souffrent, que ce soit à cause de la maladie, du deuil, même d'un divorce, tous ceux qui sont passés par là, n'ont pas besoin de bénédiction matérielle. Quand vous êtes au fond, très honnêtement, avoir un nouveau cellulaire, ça ne change rien. Tu peux mettre 1 000 $ dans ton compte, ça ne change pas grand-chose, peut-être un peu. Et les gens qui passent par les moments difficiles, peut-être c'est ton cas ce matin, ont besoin d'amour, de réconfort et de présence. Et c'est pour ça que souvent dans les enterrements, moi j'avoue que quand je vais à des enterrements, je ne sais pas quoi faire, mais des fois la meilleure chose à faire c'est... C'est juste ça. C'est juste ça qu'on a besoin, la présence. La présence. Dieu veut nous bénir par sa présence. Honnêtement, il n'y a rien de mieux qu'être dans la présence de Dieu. Lorsqu'on le loue et qu'on l'adore, et je sais que Pasteur Ben a fait un message sur la louange la semaine dernière, et on est juste bien, on est là, puis c'est fou parce que peu importe ce que tu peux vivre, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est comme si tout s'annule. Tu changes de perspective, tu es là, puis tu es juste bien dans la présence de Dieu. Et ce qui arrive, c'est qu'on aime ça parce qu'on a été créé comme ça, on a été créé pour ça, pour louer et adorer Dieu. Et vous savez pourquoi Satan déteste d'entendre louer Dieu ? Est-ce que vous le savez ? Parce que vous lui rappelez ce qu'il ne peut plus faire. Plus le faire. C'est un héritage déjà disponible, la présence de Dieu. Et finalement, c'est un avant-goût de ce que nous allons vivre au ciel, être en permanence dans sa présence. Mais n'attendons pas. Il est possible pour chacun de nous, aujourd'hui, à tous les jours, de nous emparer de cet héritage, littéralement. D'entrer dans sa présence et de vivre le ciel sur la terre. Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre le ciel sur la terre? Yes? Moi, oui. J'aime ça, j'aime sa présence. Et on peut vivre, littéralement, le ciel sur la terre avec lui. Être en permanence dans sa présence. Et en fait, la venue de Jésus, lorsque le voile s'est déchiré, alors qu'il meurt à la croix et que le voile se déchire dans le temple, n'avait d'autre but ultime que de nous permettre d'accéder à sa présence. Dieu est le Dieu de la présence. C'est son plus grand cadeau et le plus beau des héritages que Dieu peut nous faire. Et il l'a fait, il est là, il est disponible, on a juste à le réclamer. Cet automne, alors que tout recommence, que c'est la rentrée, on est début septembre, il y a toutes les activités qui reprennent, il y a les enfants qui vont à l'école, nous on a nos activités, ça part dans tous les sens, puis on se dit comment on va faire pour s'en sortir. Prenons du temps dans sa présence. Allons dans sa présence, allons chercher ce que Dieu a pour nous, allons chercher la plus grande des bénédictions. Et il y en a, vous attendez après Dieu et vous priez pour des bénédictions. Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu pourrais? Mais Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni parce que sa présence est déjà là. Elle est déjà au milieu de toi. Il vous a déjà béni. La bénédiction, elle est là. Il suffit juste de la réclamer, de réclamer cette bénédiction. En fait, la bénédiction de Dieu, la plus grande bénédiction de Dieu, c'est un peu comme la PCU. Il suffit juste de la réclamer. C'est comme la PCU. Parce que la PCU, c'est sa présence céleste unique. Amen. La présence céleste unique de Dieu, il suffit juste de la réclamer et tu vas la recevoir. On n'a pas grand-chose à faire. Je sais, il y en a, je vois venir, je dis « Oh, pasteur Stéphane, t'es important, on est rendu à la PCRE maintenant. » C'est correct, ça marche aussi, c'est la présence céleste renouvelable éternellement. Amen. Wouh! Et alors qu'on fait des blagues, on parle de PCU et qu'on parle d'argent, ce qui est fou, c'est que Dieu n'a jamais promis la richesse. Dieu n'a jamais promis la richesse. Oh, il y a des conseils éventuellement pour des choses à faire, tout ça, et éventuellement oui. Mais Dieu n'a jamais promis la richesse. La promesse qu'il a faite, par contre, c'est sa présence. Il nous a promis sa présence. Et Jésus a dit, je suis tous les jours jusqu'à la fin du monde avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça, ça, sa promesse, elle est là, elle ne changera pas, elle est certaine, Dieu est là avec nous. Et c'est ça la plus grande des bénédictions. Et au fond, n'est-ce pas ça la vraie richesse? Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai grandi à l'église et j'ai souvent fait des camps d'enfants, tout ça, ou alors il y avait des activités. Et très souvent, il y avait ce qu'on aime faire, nous les enfants, des chasses au trésor. Est-ce qu'il y en a qui aiment les chasses au trésor ici? Ouais? Ok. Est-ce qu'il y en a qui aiment juste les trésors? Ok, d'accord. Et on faisait des chasses au trésor et il y avait plein d'énigmes qu'on devait essayer de résoudre, tout ça, aller chercher des chiffres, des versets pour défaire des cadenas, mettre les trucs, tout ça. Et il y avait plein d'équipes et le but, c'est la première équipe qui arrivait à avoir les codes pour ouvrir le coffre, gagner ce qu'il y avait à l'intérieur du coffre. Puis moi, il faut que je sois honnête avec vous ce matin. Moi, quand on joue, ce n'est pas pour participer. Moi, quand on joue, c'est pour gagner. Moi, il faut qu'il y ait une récompense, il faut qu'il y ait quelque chose, ok? Sinon, ça ne vaut pas la peine. Il faut vraiment prier pour moi, comme je vous l'ai dit. Donc moi, je me mets à fond, let's go, on y va, on court dans le bois, on va derrière un arbre, on va chercher les indices, on creuse sous la terre, on trouve les indices, tout ça, on met tous les codes, on réussit et on ouvre le coffre. Et là, la responsable ouvre le coffre et fait « Bravo, vous avez trouvé, c'est vous qui avez gagné !» Et nous, tout contents, tout fiers. Et elle ouvre le coffre et elle sort un papier. Bon, déjà, ça part mal. Il n'y a pas d'argent. Ça pourrait être des billets, vous me direz, ou un beau chèque. Elle sort, puis elle déroule, elle fait « Oh, la récompense, c'est Jésus !» Tout ça pour ça? Really? Je trouvais ça quétaine à l'os. Et surtout, je me suis dit « Mais quelle arnaque, cette affaire-là » Ok, on nous fait courailler partout pour trouver des indices, juste pourquoi, pour un bout de papier où il écrit Jésus. J'étais tellement déçu. Et pourtant, c'était juste vrai. La vraie récompense, le vrai trésor, c'est Jésus, c'est sa présence, c'est ça le vrai cadeau. Et je crois que beaucoup de gens sont déçus de l'Église et de l'Évangile qu'alors on leur a présenté l'Évangile de la bénédiction au lieu de l'Évangile du Dieu de la bénédiction. Et souvent, il y en a qui vivent des épreuves, qui disent « Ah, moi, ça marche pas, ce truc... » Moi, je pensais que quand j'allais être chrétien, tout allait bien aller, tout allait bien se passer, que je n'allais pas vivre d'épreuves. Mais la vie chrétienne n'a jamais été à propos de l'absence d'épreuves. Ça a toujours été à propos de sa présence dans nos épreuves. Et c'est le chant qu'on chantait tantôt, là dans le feu. Le feu n'a pas été éteint, mais Dieu était là dans le feu. Dieu était avec moi dans les épreuves. Il était avec moi, il est avec moi et il sera avec moi dans les épreuves. Parfois, on fait l'erreur de rechercher ses présents au lieu de rechercher sa présence. Et beaucoup courent et cherchent les présents de Dieu et en obtiennent peu, alors que d'autres cherchent la présence de Dieu et obtiennent les deux. Il y a un qui avait compris ça, c'était bien Salomon. Salomon, c'était un homme brillant. Okay, il a écrit le livre des Proverbes, il était plein de sagesse. C'était un homme incroyable. Il avait ses défauts aussi, mais il était brillant. Il avait bien compris ça lorsque Dieu lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors qu'il prend le leadership d'Israël, qui devient le roi d'Israël, Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Tu es le roi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que tu veux que je te bénisse ? Est-ce que tu veux que je te rende plus riche ? Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi, et je te donnerai ce que tu me demandes. » Et Salomon, très brillant, dit « Seigneur, ce que je veux, c'est la sagesse. Je veux connaître, je veux savoir qui tu es, je veux connaître tes conseils, je veux être dans ta présence. C'est la sagesse que je veux. » Et parce que Salomon a demandé la sagesse, il a eu la richesse. Combien veulent prier pour la sagesse ce matin ? Oui, je vois des mains. Alléluia. Le paradoxe, c'est que pour pouvoir nous offrir sa présence, Dieu a dû justement abandonner son fils et lui retirer sa présence. Et alors que Jésus est venu sur la terre pour se rendre à la croix, pour mourir pour nos péchés, que son sang soit versé et qu'on puisse avoir accès au salut et à la présence de Dieu, il arrive à la fin, il est sur le bois, il est sur la croix, il souffre. Et voici ce que nous dit Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani !» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais souvent, on lit ce passage-là, puis on le lit doucement, mais c'est un cri. Jésus s'écria. Il a crié pour ça, littéralement. Et j'aime ce que dit Tommy Fallow, qui est un pasteur protestant, qui dit, « Il est permis d'affirmer que le cri terrible du juste qui cherche son Père et qui ne le trouve pas marque le point culminant du supplice. Le Fils s'est cru abandonné par le Père. À force de vouloir sauver ceux qui vivaient loin de Dieu, il est devenu lui-même un sans-Dieu. Jamais Dieu pourtant n'avait été plus près du Christ qu'à cette heure de suprême obéissance, mais il fallait que Jésus, pour vider jusqu'au fond la coupe arrière, se crût abandonné par le Père. » Je crois que la plus grande souffrance de Jésus à la croix n'a pas été physique. Je crois que sa plus grande souffrance, et même pourquoi il a transpiré des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémané, c'était sa souffrance psychologique, émotionnelle, morale et spirituelle. Est-ce que Jésus a souffert physiquement ? Totalement. Mais je crois que celle-là était plus grande encore. Elle était encore plus forte. Et vous remarquerez que Jésus ne dit pas sur la croix « Pourquoi je souffre ? Pourquoi ces souffrances ? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ce qui m'arrive en ce moment ? Ou pourquoi on m'insulte ? Les gens l'insultaient et se moquaient de lui. » Il ne dit pas « Pourquoi je vis cette humiliation ou cette honte ? Hey, je suis le Fils de Dieu !» C'est le Fils de Dieu. Pourquoi il vit tout ça ? Pourquoi cette injustice ? Est-ce qu'il dit ça ? Non, à aucun moment il dit ça. Par contre, qu'est-ce qu'il dit ? « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'avait pas peur de perdre son confort. Il n'avait pas peur de perdre son honneur. Il avait encore moins peur de perdre sa vie. Ce qu'il ne voulait pas perdre, c'est ce qu'il avait de plus précieux, c'est la présence de son Père. C'est la présence de son Père. Et nous devons saisir ça, que la plus grande des bénédictions, c'est sa présence. Ça l'a toujours été et ce le sera toujours. La plus grande bénédiction, c'est sa présence. Et si la plus grande des bénédictions de Dieu pour nous, c'est sa présence, la plus grande des bénédictions que nous pouvons offrir à ce monde, à nos familles, à nos amis, à nos collègues, à ceux qu'on croise, c'est notre présence. Il y en a, vous doutez un peu, vous n'êtes pas sûr. Mais oui, c'est notre présence, parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Et alors qu'il nous offre sa présence, le plus grand cadeau qu'on peut offrir, c'est notre présence. Nous avons besoin de la présence des autres dans nos vies, sinon ça manque de piquant. Je sais, il y en a, vous aimeriez un peu moins de piquant. Mais on a besoin les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au tout début, à la création, en Genèse 2, 18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et comprenez-moi bien, ici, on ne parle pas de célibat, on parle de solitude. Dieu n'est pas en train de dire que si tu es dans le célibat, ça va être horrible. Non, on peut être et vivre le célibat et être très bien entouré, tout comme on peut être en couple et marié et être terriblement seul. Ici, c'est la solitude qu'on parle. Et la pandémie nous a fait réaliser que ce qui nous manquait vraiment, ce qui était précieux et vital, était ailleurs. On a réalisé qu'on n'avait pas besoin de nouvelles bébelles. On a réalisé qu'on n'avait pas besoin d'aller au resto. On a réalisé qu'on n'avait pas besoin de nouveaux vêtements. D'ailleurs, la plupart, vous êtes restés pendant une semaine dans vos vêtements. J'espère que vous les avez changés depuis. Mais on a réalisé qu'on n'avait pas besoin de nouvelles affaires de Bébel, on n'avait pas besoin de choses matérielles. Ce qu'on avait le plus besoin, c'était la présence des gens. Partager des moments, discuter, manger ensemble, se prendre dans les bras. Juste être les uns avec les autres. Est-ce que c'est bon d'être là ce matin? Yes, c'est bon. On est juste bien. Et c'est ça qu'on a vraiment besoin. Et Dieu nous appelle à être présent pour les gens autour de nous. Amen. En tant qu'Église et en tant qu'individu, à être porteur de la bénédiction et à être la bénédiction. Le peuple d'Israël, lui, est souvent passé à côté de la mission et de l'appel que Dieu lui avait confié, l'appel qui était sur lui. Le peuple d'Israël n'était pas tant censé être le peuple qui reçoit la bénédiction que d'être le peuple qui répand et donne la bénédiction. Le peuple d'Israël était censé être le peuple qui allait bénir le monde entier. Et Dieu l'a dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers cette nation. Dieu indiquait qu'il voulait qu'Israël soit un moyen unique de bénédiction pour le monde entier. Et le peuple d'Israël est passé à côté très souvent. Ils recherchaient la bénédiction de Dieu alors qu'ils étaient censés être la bénédiction pour le monde. Et souvent, on peut faire cette erreur. Mais si on est là, ce n'est pas juste pour recevoir et être béni. On est là pour bénir le monde, pour faire la différence, pour pouvoir être la présence de Dieu autour de nous. Soyons la bénédiction autour de nous. Soyons présents pour les gens autour de nous. Pour notre conjoint, pour notre conjointe, pour nos enfants. Même lorsqu'ils ont 30 ans, ils ont encore besoin de vous pour faire des travaux. Très souvent d'ailleurs. Ils n'appellent pas leurs amis sur Facebook ou Insta. Puis j'ai remarqué que les likes Instagram n'aident pas à porter des affaires lourdes. Soyons présents, soyons là pour nos parents, même lorsqu'ils vieillissent, soyons là pour nos amis, soyons là pour notre communauté. Est-ce que l'Église fait vraiment une différence là où elle est? Est-ce que moi je fais une différence là où je suis, dans ma communauté, dans mon entourage, dans mon voisinage? Est-ce que je suis présent pour mon Église? Est-ce que je donne du temps? Est-ce que je suis là? Est-ce que je prends ma place? Ou est-ce que je viens juste pour recevoir et consommer puis m'en aller? Sois béni. Non, Dieu nous appelle à être présents pour notre Église, pour pouvoir permettre à d'autres de découvrir sa présence. Dieu t'appelle à être présent auprès des enfants pour permettre aux enfants de découvrir sa présence. Dieu t'appelle à être au Poupon le 19 septembre. Alléluia. Ça peut être autre chose. Pasteur Ben disait, ceux qui sont appelés à... On est tous appelés, ça qui est génial. On est tous appelés à prendre notre place et à être présents pour notre Église, pour faire la différence, pour que d'autres découvrent aussi sa présence. Soyons présents pour les moments qui comptent, comme les baptêmes, les mariages, les enterrements, pour les moments difficiles, pour les déménagements. Moi, je me rappelle quand Pasteur Ben a déménagé, il m'a appelé et j'étais tellement à recevoir cette invitation. J'étais comme, oh, je vais pouvoir soulever des meubles, ça va être tellement cool. Et donc, je suis allé à son déménagement et ça s'est super bien passé. Puis ensuite, il y a eu lieu mon déménagement. Je l'ai appelé et il avait mal au dos. Mais soyons là, soyons présents. Si la plus grande des bénédictions, c'est la présence de Dieu, la plus grande bénédiction qu'on peut offrir autour de nous, c'est notre présence. Message spécial au papa. Père, soyez là pour vos enfants. Prenez du temps avec eux. Votre présence vaut plus que vos cadeaux. Anyway, ils ont déjà trop de cadeaux, ils ont trop de jouets. Inquiétez-vous pas, il y en a trop. Ils ne savent plus quoi faire avec. Même vous, vous hésitez à les jeter, ok? Il faut acheter une autre pièce, il faut acheter une maison pour mettre tous les jouets dans une chambre. Mais soyez là pour eux. Les mamans, vous êtes déjà là, vous faites un travail incroyable, puis on a tellement à apprendre de vous. Est-ce qu'on pourrait juste apprécier et applaudir les mamans ce matin? On peut vous applaudir et on doit vous applaudir et pas juste à la fête des mères. Mes pères, soyez présents. Je lisais des statistiques terrifiantes lorsque les pères sont absents. Les enfants de familles monoparentales risquent plus d'avoir des problèmes avec la justice. Les enfants sans père ont 15 fois plus de probabilités de finir en prison pendant leur adolescence. 70% de jeunes criminels dans des centres de correction pour jeunes viennent de foyers sans père. 85% des jeunes qui se trouvent en prison ont grandi sans père. 80% des violeurs motivés par la colère viennent de maisons sans père. C'est juste fou, c'est juste hallucinant. Est-ce que ça veut dire que tous les enfants de familles monoparentales vont mal virer? Non, pas du tout. Il y a juste un point commun où quand un père n'est pas là, n'est pas présent, ça change toute la game. Je lisais encore l'engagement des pères, un rapport qui a été fait sur la situation des besoins des familles et des enfants, adopté par le Conseil de la famille et de l'enfance québécois, qui dit « Les recherches concluent que la présence du père et un niveau significatif d'engagement, pas juste être présent, un niveau significatif d'engagement de sa part procure des bénéfices incontestables aux enfants. Leurs compétences cognitives et sociales sont meilleures, de même que leur estime personnelle et leur santé mentale. Ils ont des comportements plus positifs et moins de risques de mauvais traitements. À l'inverse, différentes recherches empiriques ont associé l'absence du père ou son faible niveau d'engagement à des symptômes dépressifs, à des troubles du comportement et à une faible estime de soi chez l'enfant. Il y en a, je vous arrive, vous êtes en train de vous diagnostiquer. On relaxe. Je lisais un autre passage de Laurent Mukeli, qui est un sociologue spécialisé dans la délinquance, et qui dit « L'absence du père est bien un problème qui influence directement l'enfant. Il serait absurde de le nier. Mais ce n'est pas un cas qui se cantonne aux familles monoparentales. Il y en a où vous dites « Oh, moi, c'est bon. Nous, on est là, il y a la mère, il y a le père, tout ça. » Non, non. Il dit « On évoque ainsi beaucoup la fin de l'autorité et d'aucuns font trop rapidement le lien avec le développement de la délinquance. Ce n'est pas l'émergence d'un nouveau rapport d'autorité entre l'enfant et ses parents qui est ici un facteur clé, mais bien l'absence des relations. Où en es-tu dans tes relations? Où en es-tu dans ta présence? Soyons présents pour nos enfants, soyons présents pour notre jeune génération, soyons présents à NV Junior, soyons présents pour nos ados, soyons présents pour les gens autour de nous. » Il y a une étude de Harvard que je trouve hallucinante. Il y a une étude qui a été faite auprès de 724 hommes à Boston, avec deux groupes d'hommes. C'est une étude qui a été faite sur 75 ans. Et c'est une étude assez hallucinante parce qu'en général, ce genre d'études-là finissent vite à la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de repreneur de l'étude. Mais cette étude a duré 75 ans et souvent, il y a des manques de financement. Mais là, tout a été bon pour cette étude. Et ils ont étudié 724 hommes. Un premier groupe d'hommes qui a été pris d'étudiants de Harvard qui ont gradué à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un deuxième groupe qui ont été pris, qui étaient des jeunes garçons pris dans des familles spécialement choisies, dans des familles défavorisées, des quartiers les plus pauvres de Boston. Et ce qui arrive, c'est qu'ils ont été désavantagés socialement. Certains habitaient dans des appartements beaucoup vivant sans eau chaude ou même sans eau courante. Et alors qu'ils étaient ados, on leur faisait faire des tests et des interviews et passer des examens médicaux. Et tous ces ados ont fini par grandir. Ils sont devenus adultes, certains sont devenus ouvriers, avocats, plombiers, docteurs, un est même devenu président des États-Unis, et c'est le film qu'on va voir dessus. Non, c'est pas vrai. Certains ont développé de l'alcoolisme, d'autres de la schizophrénie. Certains ont gravi l'échelle sociale et d'autres ont fait tout le contraire. Et les leçons tirées de l'étude après 75 ans de recherche ne portent ni sur la richesse, ni sur la célébrité d'Instagram, ni sur le travail. Des valeurs qui sont chères à notre société. Richesse, célébrité et le travail. Le message le plus évident qui ressort de cette étude est celui-ci. Les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. C'est tout. That's it. L'étude dit les connexions sociales sont très bonnes pour nous et la solitude tue. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les personnes qui sont le plus connectées socialement, leur famille, leurs amis, leur communauté, sont plus heureux, en meilleure forme physique et vivent plus longtemps. Et ça me fait penser à un passage de la parole qui dit « Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que se trouve la bénédiction. » Non seulement parce qu'on est ensemble, parce qu'il y a la présence des uns des autres, mais la parole de Dieu nous dit que si deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Nous sommes présents les uns les autres, mais la présence de Dieu est avec nous. Et si tu es seul ce matin, si tu as besoin de présence, oui, viens les dimanches, viens ici. Mais alors qu'on reprend les groupes, inscris-toi dans un groupe. Trouve une famille, trouve des gens qui vont t'aimer, qui vont être là, des gens avec qui tu vas pouvoir discuter, parce que les gens, la présence des gens, c'est la vie. Oh, bien sûr, il y a quelques affaires des fois qui... Mais c'est ça dont on a besoin. C'est ça. Inscris-toi. Va voir Jacques-Hélène, va au kiosque à l'arrière, puis trouve-toi un groupe. On a besoin de la présence des autres. C'est la vie. Et ce qui est fou, c'est qu'on a tous le pouvoir de répondre à l'appel de Dieu, d'être la bénédiction. Tu as le pouvoir, quel que soit ton âge, quel que soit ton compte en banque, tu as ce pouvoir-là. Et de développer un ministère qui manque beaucoup à nos églises et qui manque beaucoup à notre monde. Ce ministère-là, ça s'appelle le ministère de la présence. Juste d'être là pour les gens. Tu n'as pas besoin d'être riche pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir les meilleurs conseils. En fait, on ne te demande même pas de conseils, on te demande juste d'être présent. Juste d'être là, parce que ça fait toute la différence. Soyons présents, le ministère de la présence. Je me rappelle quand j'ai commencé le ministère, études bibliques, tout ça, on commençait pas mal dans le même coin avec Pasteur Ben. Et quand on commence, on veut servir Dieu, mais en même temps, on veut être bon sur la prédication, on va avoir des bonnes illustrations, on va avoir des punchlines, on va avoir des trucs extraordinaires, créer des soirées de fous, dire « Waouh, super événement, on a eu tant d'ados, on a eu tant de gens qui sont venus à cet événement-là ». Et plus on grandit, plus on mature aussi dans la vie et même dans notre rôle pastoral, plus on se rend compte que ce que les gens ont besoin, c'est juste notre présence en fait. J'ai fait beaucoup de soins pastoraux où où on est avec les gens, on passe du temps avec eux, puis des fois ça va pas, puis j'ai remarqué que très souvent, les gens parlaient, et moi je parlais pas. Et ça tombait bien parce que des fois, il y a certaines situations où, pour être très honnête avec vous, je sais pas quoi dire, je peux pas aider la personne, je suis totalement impuissant. Et dans ces moments-là, je suis dans ma tête, je fais, Seigneur, aide-moi, donne-moi la parole, donne-moi le... Et on l'a pas. Et très souvent, les gens repartent heureux, contents, ils disent, en tout cas, pasteur Stéphane, merci, merci pour ce temps, merci parce que vous m'avez béni, merci pour vos conseils. J'ai pas parlé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes avec quelqu'un, puis ils disent merci. Puis en plus, ils vous trouvent sympathique, alors vous n'avez rien dit. Juste le ministère de la présence, juste d'être là. Voici ce que notre monde a besoin, qu'on soit présent, qu'on soit auprès d'eux. Que quand il y a quelque chose, on réponde présent de dire, hey, je suis là, on est là. Le ministère de la présence. Et on est tous appelés à répondre à cet appel-là. Soyons la présence, mais soyons porteurs de la présence de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut qu'on porte la présence, sa présence. Dieu nous envoie comme des messagers autour de nous, partout où on va. À l'époque du peuple d'Israël, avant la venue de Jésus, la présence de Dieu résidait dans le temple. Et c'était un endroit qui pouvait être visité une seule fois par année par un seul homme et qui risquait de mourir. On lui mettait des clochettes aux pieds, puis s'il ne répondait pas, on le faisait revenir. C'était terrible. Mais aujourd'hui, tous et chacun, on a accès à sa présence. On a accès à sa présence. Et tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Et non seulement Dieu ne nous donne pas la mort, mais il nous donne la vie dans sa présence. Amen. Dieu nous donne la vie et Dieu veut te donner la vie ce matin. Et Dieu veut te combler de tous ses bienfaits dans sa présence. Et ce qui arrive, c'est que non seulement nous avons accès à sa présence, mais mieux que ça, avec le sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes devenus le temple de sa présence. Et plus nous allons passer du temps dans sa présence, plus nous allons être d'excellents porteurs de sa présence. Et vu qu'elle est disponible et gratuite, réclamons-la. Soyons porteurs de la présence. Et plus on va passer du temps dans sa présence, plus son esprit va pouvoir venir en nous. Et plus son esprit va pouvoir venir en nous, plus on va pouvoir porter le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. J'en ai-tu oublié ? Porteur de sa présence. Et ce qui est fou, c'est que toutes ces qualités qu'on peut apporter aux autres, Dieu nous les donne déjà. Dieu nous les donne déjà. Réclamons la plus grande bénédiction. Réclamons-la. Elle est là, c'est un héritage. Dieu nous l'a donné. Et ce qui est fou, c'est que peut-être qu'on vient à l'église depuis longtemps, même on a grandi dans l'église, mais on passe à côté de la plus grande des bénédictions. On se laisse aller, puis on ne voit pas. Et on est comme le grand frère. On est juste passé à côté. On a vu, mais on n'a pas regardé. Et Moïse ne s'est pas trompé, parce que Moïse l'a réclamé. Réclamons-la, parce que plusieurs ont réclamé avant nous. Moïse l'a réclamé. Moïse était un homme de Dieu. La Bible nous dit que Moïse parlait à Dieu face à face. Il était dans la présence de Dieu, et il savait ce que la présence de Dieu lui apportait. Et alors que le peuple d'Israël allait mal, ne faisait pas les bonnes choses, et Dieu disait que c'était un peuple au cou raide, Dieu dit à Moïse, écoute, moi je vais arrêter là. Je vais t'envoyer un ange, puis t'inquiète pas, tu vas être béni. Tu vas avoir la victoire, ça va être correct. Mais moi, je ne suis pas. Et Moïse, qui connaît la présence de Dieu, va dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parce que Moïse voulait plus que la bénédiction. Moïse voulait le Dieu de la bénédiction. Il ne voulait pas ses bénédictions, il voulait sa bénédiction, il voulait sa présence à lui. David aussi l'a réclamé. David l'a réclamé. David a dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me retire pas ta présence, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi un homme selon le cœur de Dieu ? Parce qu'il passait du temps dans sa présence, il connaissait le cœur du Père. Il connaissait le cœur du Père, il connaissait la préciosité de sa présence. Et c'est pour ça qu'il a pu dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Et souvent, on ne réclame pas la bénédiction parce qu'on est trop occupé. Notre pire ennemi, c'est la distraction. Je ne sais pas quelle était la distraction à toi ce matin. Peut-être c'est Netflix, peut-être c'est les jeux, peut-être c'est les réseaux sociaux, peut-être c'est la télé, peut-être c'est les nouvelles. J'en sais rien. Quelle est ta distraction à toi ? Et souvent, on dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais la vérité, c'est qu'il nous faut prendre le temps. J'aime à dire qu'on a du temps pour ce qu'on veut. On a même du temps et de l'argent pour ce qu'on veut. C'est fou comme on n'a pas de temps, mais pour s'enchaîner des séries, ça, on est bon, ça, on peut le faire, ça, on est capable. On a du temps pour ce qu'on veut. Accaparons-nous la présence de Dieu, réclamons la présence de Dieu. Souvent, on va dans la présence de Dieu, puis on demande pardon à Dieu, mais la vérité, c'est que c'est nous. C'est à nous qu'il faut demander pardon. C'est nous qui nous sommes privés de la présence de Dieu. Et Dieu veut nous bénir. Mais allons-y, réclamons sa présence, car c'est l'héritage de Dieu. Et lorsqu'il y a sa présence, il y a aussi sa puissance. Amen. Quand il y a sa présence, il y a sa puissance. Quand Jésus est venu, il a fait des miracles incroyables. Il a purifié des gens, il l'a guéri. Et dans sa présence, il y a sa puissance. Et sa présence a le pouvoir de te changer, de te transformer, de te purifier, de te combler, de te guérir, de te restaurer, de te rebâtir. Sa présence change tout. Sa présence change tout. Sa présence me redonne la vie, sa présence me fait du bien. Ne piétinons pas, ne méprisons pas sa présence. C'est la plus grande des bénédictions. Au contraire, réclamons notre héritage et courons avec joie et reconnaissance dans sa présence. Ce qui est fou, c'est qu'on veut que Dieu nous parle. Ah, j'ai besoin que Dieu me parle en ce moment, pasteur. Tu sais, il faut que... Mais on ne va pas dans sa présence. Si je veux qu'un ami me parle, je l'appelle ou je vais manger avec lui. C'est la même chose avec Dieu. Puis quand Dieu parle, il murmure. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être dans sa présence. Il faut qu'on soit dans sa présence pour pouvoir l'entendre et l'écouter. Et en fait, moins on va dans la présence de Dieu, moins on l'entend. Et plus on entend l'ennemi. Parce que l'ennemi crie ses mensonges alors que Dieu murmure ses vérités. Et plus tu vas dans la présence de Dieu, plus tu vas pouvoir entendre les murmures de Dieu. Et pourquoi ces murmures? Parce qu'il est proche, il est là, il est à ton oreille. Il dit, hey, je suis là, je suis avec toi, lâche pas, continuons. Je t'aime, t'es capable, courage. C'est dans sa présence que ça se passe. Certains veulent que Jésus revienne pour aller au ciel. Alléluia. Et être dans sa présence, mais sa présence, c'est le ciel sur la terre. En fait, mes amis, ce matin, le ciel, c'est rien d'autre que sa présence. Le ciel, c'est sa présence, tout simplement. Et on peut vivre le ciel sur la terre ce matin. Je termine avec ça. On parle du fils prodigue et quand on relit la parabole du fils prodigue, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait blâmer les deux fils, et avec raison. Et ce qui est fou, c'est que dans les deux cas, les deux réactions, le père est là pour ses deux fils. Il ne les rejette pas. Il est avec eux. Il est présent pour eux, qu'ils se soient éloignés ou qu'ils se soient refroidis. Dans les deux cas, il est avec eux. Et peut-être que tu ne connais pas Dieu ce matin, peut-être que tu t'es éloigné. J'aimerais te dire ce matin, je suis là, mes bras sont ouverts. Viens-t'en. Viens-t'en. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Dieu veut te bénir ce matin. Dieu veut te toucher particulièrement. Peut-être que tu es ici depuis longtemps. Peut-être que tu es chrétien même depuis 30 ans. Tu dis, oh, écoute, moi je la connais, cette histoire, c'est super. Puis moi j'obéis à Dieu, je donne ma dîme, mes offrandes, je donne du temps. Peut-être que tu fais tout ce qu'il y a à faire, mais tu manques le plus essentiel, la plus grande des bénédictions d'être dans sa présence. Va dans sa présence, Dieu t'attend, il a des choses à te donner, des choses à te dire dans sa présence. Je termine avec le psaume 73. Le psaume 73, c'est le psaume d'Asaph. Puis alors que Asaph a vu tout ce qui se passe dans le monde, il voit les méchants qui réussissent, tout va bien pour eux. Puis il semble que pour lui, ça va mal, ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je croyais que tu étais un Dieu de justice. Puis à la fin de toute son énumération, il réalise que c'est vrai, peut-être que je n'ai pas tout ça. Mais m'approcher de Dieu, c'est mon bien. D'autres traductions disent, ce qui me rend heureux, c'est d'être près de Dieu. Et c'est ça le bonheur d'être avec Dieu, c'est d'être dans sa présence. Dieu nous appelle à saisir et à comprendre sa bénédiction. Pour être la bénédiction, on a besoin de réclamer sa bénédiction pour nos vies. Et pas juste le dimanche. Dieu veut te bénir lundi, mardi, mercredi. Mercredi soir à 18h30, quand tu es en train de faire à manger, puis de faire prendre le bain aux enfants. Dieu veut te bénir dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta cuisine. Partout où tu es, tu peux vivre le ciel sur la terre et vivre la plus grande des bénédictions qui est sa présence. Il te suffit juste de la réclamer. Alors est-ce que ce matin, on pourrait juste se lever ensemble et réclamer la présence de Dieu, réclamer la plus grande des bénédictions? Ne passe pas à côté. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner bien plus que tu crois. Il y a tout ce dont tu as besoin dans sa présence. Sa présence est là pour te combler et te donner tout ce qui est nécessaire à ta vie et à ta vie spirituelle. Amen. Alors ce matin, est-ce qu'on pourrait juste fermer nos yeux, diriger nos pensées vers Christ et dire, Seigneur, nous réclamons ta présence ce matin. Viens, Saint-Esprit, descends. Je veux être dans ta présence et vivre la plus grande des bénédictions, celle que tu m'as offerte en héritage, l'héritage que je réclame ce matin. Amen.